Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
Quand on rentre dans les finances publiques, au début, on arrive tous comme n'importe quel Pékin. Non, mais attends, c'est bon, quoi, faut pas abuser. Et en fait, on se rend très vite compte qu'il y a vraiment des abus qui se font. Et on a une grosse notion d'équité. Les gens qui ne travaillent pas là sont relativement individualistes. Et je les comprends, hein, y a pas de problème. Mais on se rend vite compte que bah, si toi, tu payes tes impôts correctement, si moi, je le fais correctement, et si n'importe qui d'autre le fait correctement, ça permettrait peut-être de baisser d'autres impôts ou de baisser certains taux. Après, il faut avoir une certaine foi en ton travail, sinon t'arrêtes. Hein.
Je vous fais une confidence. Il y a un côté de moi qui adore payer mes impôts. Quand je remplis ma déclaration, j'ai parfois l'impression de participer au trésor public, à notre trésor. Et je suis un peu fier de me dire que je vais contribuer à payer des écoles, des infirmières, des soins ou des allocations pour des gens en difficulté. Je me dis que je suis une meuf bien, en fait. Et puis, il y a une autre partie de moi, moins glorieuse, qui éprouve une forme d'anxiété. Et ce, pour deux raisons. D'abord, parce que j'ai peur de me tromper, d'oublier de déclarer un truc ou de mal le déclarer et de m'exposer à des sanctions. Et aussi parce que j'ai peur de m'auto-gruger, en quelque sorte. Ben oui, je suis pas spécialiste en droit fiscal, moi. Et il y a tellement de niches et de déductions que je me dis que si ça se trouve, il y en a auxquelles j'ai droit, mais que je connais pas. Si vous êtes comme ça, vous aussi, ou plus simplement, si en ces temps où l'on parle beaucoup de fameuses recettes de l'État, de la dette, de la fraude fiscale et de taxer les riches, vous vous posez des questions, cet entretien est pour vous. Nous avons eu la chance inouïe de rencontrer une contrôleuse du fisc, très rock'n'roll, qui nous explique tout, vu de l'intérieur. Une parole exceptionnelle, puisque les fonctionnaires de Bercy n'ont pas le droit de s'exprimer dans les médias. Préparez-vous à apprendre qui sont les gens des impôts, comment sont décidés les contrôles, quels sont leurs angles morts aussi, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire, que peut-on défiscaliser ? Après cet éclairage sur la collecte de notre fameux trésor public, je serais d'ailleurs bien curieuse d'avoir vos réflexions sur ce que cela dit de nous. En attendant, très bonne écoute, bien sûr.
Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Victoire, qui ne s'appelle pas vraiment Victoire, mais que nous sommes contraintes à l'anonymat du fait de ta profession. Victoire, tu es contrôleur des impôts.
Exactement.
Tu es agent du fisc, tu es la personne que personne n'a envie de voir ces jours-ci.
C'est tout ça.
Et il se trouve que les gens qui travaillent aux impôts ont un devoir de réserve. C'est-à-dire que tu n'as pas vraiment le droit de parler aux médias. C'est quelque chose qui est pris vraiment au sérieux dans ton administration ?
Oui, on est plutôt mal vu, en fait, quand on en parle, et il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Alors, il y a l'histoire de déontologie au niveau des cas privés. En effet, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout le droit de divulguer. Et si on parle de certains cas, on est censé faire en sorte que personne ne puisse identifier la personne, la situation, ou ce genre de choses. Bah, comme toi avec moi, là.
Tu risques quoi, toi, si...
Perdre mon travail et un procès. Je risque gros, là, en l'occurrence.
Alors, comme on le fait toujours dans Thune Podcast, on va quand même un peu parler de toi, parce que on est un peu curieux d'avoir quelques éléments de ton histoire à toi, qui t'a conduite à cette profession, qui fait pas forcément rêver tous les enfants. tu viens d'où? T'as grandi où, Victor?
Moi, j'ai principalement grandi dans le sud de la France. Mon père a été longtemps gérant de boîtes de nuit un peu particulières, au Cap d'Agde, par exemple. Et puis, ma maman, elle... n'a pas de métier véritablement défini.
On va dire qu'ils étaient dans des métiers border légaux.
Ouais, aucun des deux n'est branché pour la légalité. Hein. C'est vraiment les deux se sont débrouillés, même si le métier peut être légal en soi, notamment mon père, par exemple, être patron de Bonne Nuit, c'est un problème pour personne. N'a jamais rien déclaré, quoi. Donc, clairement, je me prédestinais pas du tout à ce boulot-là.
Ils sont contents que tu fasses ça aujourd'hui ?
Ma mère m'a dit à l'époque, quand j'ai réussi le concours, qu'elle était plutôt contente pour moi, même s'il a fallu avaler la pilule un petit peu quand même. Mon père, aujourd'hui, il est vachement fier. Il est vachement fier parce qu'il sait que je voulais me sortir de ça et il est content, quoi, c'est fait.
Et vous parlez d'argent à la maison, quand tu étais petite ?
Beaucoup. Moi, j'ai grandi principalement avec ma mère. Mon père était dans la dèche totale, alors que quand je suis née, c'était un mec ultra riche. Mais voilà, il s'est passé beaucoup de choses, notamment ma mère, qui lui a collé un contrôle fiscal au cul. Hein. Donc,
c'est vrai.
Ma mère, elle a ruiné mon père avec un contrôle fiscal.
Alors, on ne se dit pas petite, je crois, donc plus tard, quand je serai grande, je serai contrôleur du fisc.
Non.
C'était une épiphanie, une révélation ?
Non, je devais faire des études. J'ai passé un bac scientifique et patatras. À l'époque, j'ai quitté ma mère, je suis partie vivre chez mon père. Et mon père, il m'a dit un peu en dernière minute, « Eh mais nous, on n'aura pas du tout d'argent pour te payer tes études, quoi. » Et donc, j'ai dû renoncer. En fait, je ne savais pas où j'allais. Et une copine à moi passait le concours. Ses parents étaient aux finances depuis des années, tous les deux, très bien. Et du coup, elle m'a dit, bah, tante, on sait jamais, voilà combien on gagne.
Et combien on gagne?
Moi, quand je suis rentrée, je gagnais 1650 euros net. Mutuelle déduite. Alors, c'est 1700, mais on est prélevé sur notre salaire si on prend la mutuelle des finances. Du coup, c'est quand même pas mal, hein, pour un niveau brevet. Parce que j'ai passé le concours d'agent C au départ. Et ça, c'est niveau brevet, quoi. Alors, ouais, il y a plein de gens qui ont des licences et tout qui le passent. Mais il faut juste avoir un brevet. Un peu de culture générale. Et être malin, quoi. Il y a pas de...
Et après, tu peux monter.
Et après, tu montes. Aujourd'hui, je gagne plus du tout la même somme. Et puis, je suis plus agent, surtout. J'ai passé le concours en interne pour devenir contrôleur. Et donc, du coup, après, on fait vite le ratio. Hein. Tu vas gagner tant. T'as 9 semaines de congés par an. T'as tes week-ends.
Et quand tu dis tant, c'est-à-dire que là, t'es à peu près sur une tranche de combien ?
Bah là, maintenant, moi, je gagne 1940 net, mutuelle déduite. Bah, donc, j'ai à peu près 100 balles de mutuelle maintenant. Donc, ouais, je gagne 2050 euros par mois, quoi, net.
Et ça peut encore augmenter ?
Bien sûr, ça va augmenter. C'est pas que ça peut, c'est que ça va augmenter.
En fin de carrière, tu peux arriver jusqu'à des plus de 3000
Ouais, 3500, facilement, si je bouge pas, hein, si je fais rien. C'est-à-dire si j'essaye pas de passer des concours pour monter encore. Hein. Si je reste à mon grade, en fin de carrière, je peux être à 3500.
C'est qui tes collègues ? C'est... Là, on a compris un peu ton parcours à toi, mais c'est qui les gens des impôts ?
Ah, c'est
les
des
autres
vieux.
Contrôleurs des... C'est des vieux ?
Ah ouais, beaucoup. C'est en train de se rajeunir très légèrement depuis un ou deux ans, mais c'est des gens qui sont rentrés là il y a 20, 25, 30 ans, quoi. C'est hallucinant. C'est des gens, comme on les imagine, un peu discrets, qui font pas trop de vagues, des fois un peu tatillons. C'est des gens qui sont très branchés administratifs. Un peu blasé quand même. Hein. Il y a beaucoup de gens blasés chez nous.
Donc, on est sur des petits costumes gris-souris, des petites lunettes et des gens qui chuchotent ?
Qui chuchotent, oui. Les lunettes, vu tout le temps qu'on passe sur l'ordi, oui aussi. Les costumes, ça a changé. Ça y est, on s'est quand même un peu démocratisé. On vient en jean basket, quoi. Hein. Il n'y a pas de, y a pas de problème.
On
ne
va pas se mettre à dire rigolo comme un agent du fisc, quoi. Ça va pas.
Non, toujours pas, non. Mais ils ont de l'humour, hein. Mais c'est un humour un peu bizarre, quoi. C'est comme l'humour des comptables. Hein.
Alors, la première question qu'on se pose, c'est comment sont choisis, décidés ces contrôles fiscaux ?
Est-ce qu'il y a... À la tête. Non, je rigole. Non, bien sûr que non. Alors, en fait, la première étape, c'est qu'on saisit les déclarations. Quand on les saisit, des fois, on voit des choses. On le voit. C'est pas le moment de faire le contrôle. On n'a pas le temps. Mais on se dit, il y a un truc qui va pas, quoi. C'est quelqu'un qui, je sais pas moi, gagne 20 000 euros par an. Et qui nous marque des frais réels pour 18 000 euros, on se dit, gars, pourquoi tu vas travailler, quoi? Donc, on se le note, on se le met de côté, on se dit, on regardera. Ensuite, il y a des algorithmes qui vont définir un peu quel thème on doit contrôler, parce que certaines années, on va vachement se brancher sur les frais réels, par exemple. D'autres années, sur les frais concernant les enfants qu'on peut déduire, comme la crèche, la nounou, ce genre de choses. Donc après, ça, ce sont des thèmes. Les comptes bancaires, par exemple, là, ça fait 2-3 ans que les comptes bancaires non déclarés à l'étranger, c'est gros cheval de bataille chez nous. On essaye de les faire déclarer, quoi, parce que c'est entre 1200 et 1500 euros d'amende, hein, je crois, par compte non déclaré. Donc, c'est quelque chose qui potentiellement est important pour la politique de l'État, quoi.
Alors, chaque chose est différente, mais déjà, parlons de ces algorithmes. C'est quoi? C'est de l'intelligence artificielle? C'est des programmes qui lisent toutes les déclarations de tout le monde et qui cherchent uniquement certaines cases? Comment ça marche, tu sais?
Alors, il y a pas mal d'intelligence artificielle. Un des gros budgets de cette année au niveau des finances publiques, c'est quand même de développer le numérique et l'intelligence artificielle. Justement, hein, on est en train de faire des coupes et d'enlever des personnes. Donc, potentiellement, le but, c'est que l'intelligence artificielle remplace ça. Et après, bah oui, hein, toutes les déclarations sont scannées par des logiciels différents. Et en fait, nous, ça nous ressort des listes. Soit des listes d'anomalies, de choses étranges. Donc, par exemple, tu as déclaré 20 000, mais ton employeur, il a déclaré 40 000. Nous, chez nous, ça ressort. Alors, ça peut arriver, hein, et on vérifie.
Donc, l'algorithme dont tu parles, d'après ce que je comprends, il fonctionne par mode. Un coup, ça va, enfin, comme des tendances, en quelque sorte. Un coup, ça va être, tiens, on met l'accent sur la TVA. Un coup, on va mettre l'accent sur les successions. Un coup, on va mettre l'accent sur le patrimoine. Et selon les années, il y a des tendances, en quelque sorte.
Ah oui, complètement. C'est vraiment par tendance. C'est très lié à la politique, hein, les finances publiques de l'État. Parce que faut quand même pas oublier, on est finances publiques de l'État. Donc, suite aux fraudes à la TVA qu'il y a pu avoir, je pense que derrière, pendant 1 ou 2 ans, on a vachement axé sur ça, quoi. Ça marche aussi suite aux fusions. Par exemple, là, on a la taxe à l'essieu, par exemple.
La taxe quoi?
La taxe à l'essieu, c'était par rapport aux poids lourds. Bon, bref. Et qui est arrivée aux impôts. Bon, bah, on a mis l'accent sur ça. Quand le prélèvement à la source a été mis en place, on a ultra contrôlé ça dans les premiers temps. C'est assez logique, hein. C'est nouveau. Fallait s'assurer que tout le monde était d'équerre. Et puis surtout, prélèvement à la source et TVA, par exemple, il y a des impôts comme ça plus susceptibles que d'autres d'être contrôlés. Et surtout, tu as des impôts qui rapportent plus que d'autres, quoi. N'oublions pas, quand même, hein, la TVA, c'est l'impôt qui rapporte le plus. Tu es quasiment certain qu'on n'aime pas du tout que tu fraudes là-dessus, quoi.
La mode 2023, tu as le droit d'en parler ou pas?
Non.
2024, pardon.
Ouais, non. Alors, j'ai pas le droit d'en parler, mais surtout, au moment où on enregistre ce podcast, la loi de finances n'a pas été encore divulguée dans les services, donc je sais pas.
Donc, il y a une première préliste, en quelque sorte, qui est faite par des humains et des logiciels. Ça doit faire quand même pas mal de gens. Comment est-ce qu'on choisit, à partir de cette préliste, sur qui ça va tomber?
Mais on ne choisit pas vraiment. Hein. Cette playlist, elle doit être traitée. Il n'y a pas le choix. Il faut traiter toutes ces personnes-là. Après, ces personnes-là, soit... là, c'est un humain qui va les traiter, qui va regarder, qui va dire « Ok, je regarde, jette un œil. » Et très rapidement, le but, c'est de voir est-ce que ça en vaut le coup. Parce que si, par exemple, la personne, elle est non imposable, mais elle est ressortie là-dedans, on s'en fiche, en fait. Bon, très honnêtement, on va y jeter un œil, mais on ne va pas forcément se prendre la tête.
Toi, ça t'est arrivé de te dire... Bon, bah, lui ou elle, ok, c'est clair qu'il y a un petit grugis là, et en fait, je vais pas y aller parce que ça.
Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ça m'est déjà arrivé de me dire, ah, ça sert à rien, je vais y passer 3, 4, 5 heures, et finalement, ça va rapporter 20 balles, quoi. Ça n'a pas de sens. On nous demande quand même de faire attention à ça. On nous demande de contrôler, mais on n'est pas obligé d'aller au bout de la procédure si on se rend compte que ça n'a pas de sens, quoi.
Arrive le moment où. Où tu vas contrôler. Alors moi, j'ai jamais eu de contrôle fiscal.
Que tu crois.
En tout cas, j'ai jamais eu un contrôleur ou une contrôleuse fiscale qui est venue me voir. Je suis pas pressée parce que je suis morte de peur comme tout le monde, hein, même si je pense que j'ai pas grand-chose à me reprocher.
Faut pas, je suis sympa.
Comment ça se passe quand t'arrives? Donc, je reçois une petite lettre. Ça veut dire quoi, examiner les comptes?
En fait, on va pas examiner vos comptes. On va t'envoyer une lettre et on va te dire, voilà, nous avons regardé votre déclaration. Vous avez déclaré tant. Et quelque chose ne va pas, quand on va te dire, sauf que nous, on a tel chiffre, veuillez justifier. Ça va se passer comme ça. Tu nous renvoies les documents, je sais pas, on reprend l'employeur qui déclare 40 000, toi t'en déclares 20 000. Et en fait, l'employeur, il s'est trompé, il a fait 2 fois la déclaration. Quand tu nous envoies ta dernière fiche de paye, c'est marqué ou ton solde, peu importe, c'est OK. Nous, après, on valide, quoi. Maintenant, il y a aussi l'histoire du droit à l'erreur. Tu t'es trompé, OK? Finalement, c'était pas 20 000, c'était 25 000. Tu t'es trompé et tout, tu te dis « Ah oui, pardon, je suis d'accord, je me suis trompé, 25 000, ok. » Là, nous, il y a une nouvelle loi qui dit que tu vas être légèrement amendable, mais pas tant que ça.
Bah, j'avais vu que justement, quand tu faisais une erreur, c'était 10% en gros la pénalité.
Voilà, c'est il me semble que maintenant c'est 10 au lieu des 20 ou des 40 en fonction de l'infraction.
Jusqu'à 80% apparemment.
Quand ça peut monter très haut, mais 80%, franchement, faut.
C'est quand elle fait des malversations.
Très mauvaise foi et qu'on soit très très en colère quand même.
Mais tu rencontres en vrai les personnes que tu contrôles ?
Pas nécessairement. Ça peut arriver quand ils veulent s'expliquer, quand ils veulent un rendez-vous. Ça arrive aussi qu'on contrôle quelqu'un et qu'il ne comprenne pas ou qu'il ait peur. Et s'il a peur, la personne souvent nous appelle et nous dit « J'aimerais vous voir parce que je ne comprends pas, je voulais bien faire, je viens avec tous mes papiers. » Moi, j'ai déjà reçu quelqu'un qui est venu avec un sac cabas avec tous ses comptes depuis des mois, quoi. Et j'étais là « Non, mais je ne vais pas regarder vos comptes bancaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste vos revenus et on s'arrête là, quoi. » Ça arrive, les gens ont peur, mais c'est très rare qu'on les rencontre dans un contrôle classique. Après, il y a les contrôles faits par des brigades de vérification. Et donc là, on monte un peu plus haut. On va avoir donc la brigade de vérification, on va avoir le pôle de recouvrement spécialisé.
C'est quoi une brigade de vérification ? Ça y est, j'ai une image de façon brigade du tigre, là. Qu'est-ce que...
Brigade de vérification, alors souvent, ça c'est plutôt pour les entreprises. Dans les services lambda, donc services des impôts des entreprises, services des particuliers, on fait ce qu'on appelle des fiches alertes. Donc, par exemple, on voit que quelqu'un se moque de nous. Ça fait 3 ans hein, qu'il déclare mal, c'est volontaire, on a déjà fait des rappels. À chaque fois, ça tombe juste. Ou alors, par exemple, c'est quelqu'un qu'on amende à chaque fois, mais qui pour autant ne déclare pas. Quand tu payes tout le temps tes amendes, sans rien dire, sans rechigner, et que tu ne déclares pas, souvent c'est parce que ça te revient moins cher que de déclarer. On n'est pas complètement bête non plus. Et du coup, on fait remonter. Et ces brigades-là, elles peuvent aller sur le terrain. Elles peuvent aller faire une enquête de terrain directement.
C'est quoi une enquête de terrain ?
Une enquête de terrain, on va prendre l'exemple d'un bar. Un bar qui dit qu'il n'a pas d'employé, qu'il fait pas de chiffres et tout. La brigade, elle va y aller, elle va se présenter au bar, à l'improviste, sans se signaler. Bon, bah, il faudrait que le bar il soit vide et qu'il n'y ait pas d'argent dans la caisse, hein, parce que sinon, on a le droit de prendre la caisse et de partir avec pour payer les dettes. Et oui, on vient avec un commissaire de police, éventuellement, ou un huissier. Et à ce compte-là, on peut partir avec la caisse.
Oui, donc t'es pas forcément que bien reçu quand tu te signifies aux
non.
citoyens,
à tes non, on n'est pas toujours bien reçu. Je vais quand même revenir sur quelque chose. Il y a un an ou deux, on a 2 collègues quand même qui sont morts hein, sur le terrain, justement. Alors, c'est excessivement rare. C'est quelque chose qui... Ça a remis tout le monde d'équerre, hein, parce que nous, on rencontre beaucoup de gens, surtout dans la misère, entre guillemets, ou au moins une espèce de précarité administrative. Donc, bon, on se dit que ça va. Et en fait, bon bah, quand on voit qu'il y a des gens assez désespérés pour tuer d'autres personnes et se donner la mort derrière, ça rappelle quand même que l'argent, c'est quand même un sujet très sensible et qu'on ne peut pas non plus se pointer totalement à l'improviste.
Pourquoi ils se sont fait tuer, ces contrôleurs ?
Mais c'était lors d'un contrôle et il se trouve que le monsieur avait son entreprise chez lui, comme ça arrive souvent, notamment les artisans par exemple. Et en fait, il avait des dettes incroyables. Il s'en sortait pas. Lui, il trouvait ça insurmontable. Il se sentait harcelé. Il a pété un câble. Il a tiré sur ces personnes-là. Et bon, bah, nos collègues sont décédés, quoi.
La DGFiP emploie environ 5800 agents pour réaliser les contrôles fiscaux externes, dont près de 4000 vérificateurs. J'ai l'impression que c'est pas beaucoup, on est 70 millions, on est 30 millions d'actifs.
C'est vraiment pas beaucoup, c'est vraiment vraiment pas beaucoup. Après là, ce sont que ceux qui font que du contrôle. Donc ça va être les personnes dont je te parlais, les brigades de vérification, les pôles de contrôle des revenus du patrimoine, ce genre de choses. Donc là, ce sont vraiment des agents spécialisés dans un domaine et qui vont aller gratter le dossier. Après, il y a tous les autres agents. Hein, qui font à côté beaucoup d'accompagnement.
Toi, des fois, t'as l'impression peut-être de pas faire autant de contrôles que tu le souhaiterais. Je sais pas si tu souhaites faire des contrôles, mais en tout cas que tu le devrais, parce que t'as pas que ça à faire et que t'es un peu débordé ou...
Oui, c'est un sentiment très, très ressenti auprès de mes collègues. Hein. On en parle régulièrement. Par exemple, moi, quand je suis arrivée à l'époque en service des impôts des particuliers, on faisait beaucoup de saisies. On n'avait plus assez de monde pour faire des contrôles, mais ça faisait encore partie de nos missions. Et là, c'était mission impossible. Moi, j'ai vu des gens partir en stress pas possible parce que pas le temps de traiter toutes les listes de contrôles. Il y avait une grosse, grosse pression, et notamment les anciens Ils faisaient beaucoup de contrôles à une époque. Maintenant, ils en font presque plus. Ils ont du mal à comprendre. Ils disent que le travail est mal fait, que ça va être moins. On fait moins de contrôles que ce qu'on devrait, c'est sûr.
Alors, les agents du fisc que j'ai pu croiser dans le civil, en quelque sorte, je ne sais pas si je suis tombée sur des cas particuliers, mais ils ont tous témoigné d'une sorte de, d'amour de leur mission. Parce qu'on pourrait se dire comme ça que c'est pas très sympa de contrôler les gens, mais j'ai plutôt l'impression que c'est des gens qui trouvent ça important et qui ont une espèce de foi dans le fait qu'il ne faut pas gruger l'État.
Quand on rentre dans les finances publiques, au début, on arrive tous comme n'importe quel Pékin. Non, mais attends, c'est bon, quoi, faut pas abuser. Et en fait, on se rend très vite compte qu'il y a vraiment des abus qui se font. Et on a une grosse notion d'équité. C'est hyper important. Et on se rend compte qu'il y a des impôts, par exemple l'impôt foncier, qui est très équitable. Si toi, tu déclares mal ta maison, ma commune, dans tous les cas, va devoir trouver cet argent-là. Donc, elle va imposer plus tous les autres. Ça paraît assez logique dit comme ça, mais la plupart des gens n'y pensent pas. Les gens qui ne travaillent pas là sont relativement individualistes, et je les comprends, hein, y a pas de problème. Mais on se rend vite compte que si toi tu payes tes impôts correctement, si moi je le fais correctement, et si n'importe qui d'autre le fait correctement, ça permettrait peut-être de baisser d'autres impôts ou de baisser certains taux. Après, il faut avoir une certaine foi en ton travail, sinon t'arrêtes. Hein.
Sinon tu deviens fou.
Ouais, c'est ça, c'est obligé. Hein, je pense que... C'est comme un vétérinaire qui se sent obligé d'euthanasier des animaux, quoi. Il faut qu'il comprenne pourquoi il le fait.
Quelle métaphore charmante.
Ouais, adorable.
Est-ce que ça arrive souvent que des gens dénoncent d'autres gens?
Ça arrive tout le temps.
Ah ouais?
Ah ouais.
Tu sais, je sais pas, j'avais vu dans des vieux films. Alors, je suis un bon Français, mais mon voisin, j'ai rien pour dire, mais il paye pas ses impôts. Ça arrive. Des lettres anonymes, des corbeaux.
Des corbeaux, je suis tombée une fois sur un cas comme ça où quelqu'un avait chanté quelqu'un d'autre, mais souvent ça c'est lié à des histoires d'amour en plus, hein. C'est assez malsain, mais non, c'est rigolo, j'ai un cas actuellement, j'ai une femme, elle sait pas qu'elle veut dénoncer son mari, en fait ils sont séparés depuis 4 ans, mais elle est toujours mariée, et lui il fait n'importe quoi, et donc on en est au stade où on saisit sur les comptes, très régulièrement quoi. Donc en fait on saisit les sommes, il a des amendes, et la banque prend des sous en plus sur ça, c'est exceptionnel. Et donc elle en peut plus, elle en a marre, puis en fait elle nous a tout dénoncé, elle nous a envoyé des mails où le gars explique qu'il nous prend pour des pigeons quoi. C'est exceptionnel parce qu'on est là, ok. Et en fait quand je l'ai eu au téléphone, j'ai dit mais vous vous rendez compte que... qu'on va vous saisir vous aussi parce que vous êtes toujours mariée. Elle me dit oui, mais moi ce que je veux c'est une aide pour lui quoi, une aide psychologique. Et là, ouais, ok, d'accord. Sinon après on a régulièrement des cas de mon voisin il a fait construire ça mais il l'a pas déclaré ou mon ex-femme elle touche tant d'argent mais elle me verse pas de pension alimentaire machin. Et toi t'es là. Ok, d'accord. Alors tu prends les coordonnées, tu prends les informations, c'est toujours bon. C'est rigolo parce que souvent ces gens sont clean. Enfin, moi, il y a des gens, ils disaient ouais, elle déclare pas les pensions, les machins et tout. Mais nous, quand on a regardé ses comptes, c'était tout nickel. Et d'ailleurs, la personne a pu nous fournir ses relevés bancaires où elle faisait les virements.
Les accusations sont souvent fausses.
C'est souvent faux. Par contre, ce que les gens n'ont pas l'air de comprendre, c'est que toi, tu vas nous dénoncer quelqu'un. Mais nous, on vérifie tout le monde. Hein. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que cette personne-là qui soit vérifiée. Hein.
Tu vas aller contrôler le délateur.
Ouais. Ou moi, j'aime bien contrôler le délateur et c'est quand même quelque chose qu'on fait souvent. On aime mieux, comme ça, on met tout à plat, tout le monde sur un piédestal. Parce qu'en fait, après, la personne qu'on contrôle, souvent, elle a déjà entendu le « je vais aller te dénoncer ». Et en fait, du coup, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renvoie la balle. Et donc, nous, comme ça, on a déjà pris de l'avance, c'est réglé, c'est OK.
Est-ce que les cas de phobie administrative sont fréquents?
Oh là là, mais c'est incroyable. Non, mais c'est exceptionnel. Moi, je savais pas que c'était à ce point-là avant de rentrer dans l'administration. C'est-à-dire que, bon, évidemment, j'adore les papiers, j'adore les cahiers, j'adore les stylos, j'adore le rangement de papier. C'est mon gros trip dans la vie. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui apprécient pas tant que ça, hein. Mais après, de là à faire des phobies. Et en fait, j'y croyais pas. Et en fait, plus ça va, plus je me dis, waouh, il y a plein de gens qui ont peur de ça. Moi, il y a des gens, des fois, ils m'appellent, ils me disent « Oui, je comprends pas, vous avez saisi, machin. » Je dis « Ok, mais je dis, on vous a envoyé des courriers. »« Oui, mais moi, les lettres, je les reçois, mais je les ouvre pas, madame. Moi, j'ai peur. » Comme on a déjà des gens qui sont venus nous voir avec des enveloppes fermées, qui nous disent « Oui, vous m'avez écrit, je comprends pas pourquoi. » On dit « Bah, ouvrez l'enveloppe, quoi. » Ils ouvrent l'enveloppe et je sais pas, on leur a rendu de l'argent, quoi. Ça arrive souvent et là, je suis là Et en fait, ils avaient tellement peur. Et en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que ce sont des gens qui n'ont pas demandé les aides de la bourse parce qu'ils savent pas remplir un dossier, qui n'ont pas demandé d'aide de la CAF parce qu'ils ont peur de remplir des papiers, parce qu'ils s'en sortent pas. Ah, mais comprenez, moi, je sais pas faire. Et ça, c'est de plus en plus, quoi.
Mais là, c'est pas ton boulot de les aider. En revanche, toi, t'es pas de ce côté-là.
C'est pas censé être mon boulot. En vrai, on le fait. Franchement, on est quand même vu. Alors, peut-être pas par le commun des mortels, mais pour la plupart des gens qui ont eu affaire à nous en direct, la plupart te diront, je pense, qu'on les a dépatouillés d'une situation, qu'on les a aidés à faire quelque chose. On n'est quand même pas un métier super sympa. Si on commence à taper sur les gens et qu'on les aide pas, je trouve ça mauvais.
Les gens qui viennent vous voir en direct, alors je sais pas quel genre de gens c'est. Moi, ça m'est arrivé de me pointer aux impôts. Déjà, souvent, je sais pas si c'est pareil partout, mais dans ma région, faut y être avant l'ouverture et ça ouvre à 8 heures. Ça ferme super tôt. On fait la queue pendant des plombes et on peut pas dire que quand t'es dans la queue, tu puisses te croire au claret de jouer au crayon. Hein. C'est plutôt toute la misère du monde, quoi. Est-ce que c'est l'impression que t'as?
Alors, moi, je travaille dans une ville où il y a les deux. Il y a des personnes analphabètes hein, qui viennent nous voir. Donc on est quand même des gens souvent qui vont avoir des métiers manuels, mal rémunérés, des gens qui sont dans une certaine précarité. Mais aussi, on a des gens très, très aisés. Moi, j'ai déjà eu mon ophtalmologue qui est venu me voir à l'accueil, par exemple. Et quand on se rend compte qu'il y a 300, 400, 500 000 à déclarer sur la déclaration et qu'il est tout seul et qu'il y a sa femme à côté qui déclare la même chose, tu te dis « d'accord, ok ». En fait, c'est vrai que souvent, on a quand même 80% de la population qui a des problématiques. Alors, elles sont pas forcément très précaires, mais c'est rarement plus que la classe moyenne. Par contre, effectivement, nous avons réduit nos horaires d'ouverture. Ça, je peux le confirmer. Et c'est compliqué. Et on voit souvent arriver à l'accueil des gens qui ont fait la queue pendant 3 heures. Et la plupart du temps, c'est pour pas grand-chose quand même.
Il y a pas des gruges classiques?
La gruge classique, effectivement, va être sur le paiement de la nounou. Effectivement, les parents séparés, les deux déclarent. Ah oui, mais enfin, quand même, je pensais que... Oui, non, en fait, vous avez déclaré une pension alimentaire, donc a priori, vous n'avez pas l'enfant. Et la garde de la nounou, ça fait beaucoup, quoi.
Ça va être du 5% ou du 10%, quoi. C'est pas beaucoup de pénalité.
Ah, s'ils s'en rendent compte assez rapidement et qu'ils nous le disent, avant qu'on soit dans la phase de contrôle, faut savoir qu'on peut modifier et c'est pas forcément pénalisé. C'est quand on fait un contrôle que c'est pénalisé. Mais si t'es pas contrôlé pour une raison X ou Y et en décembre, tu dis « Ah, quand même !» Tu peux dire « Je me suis trompé, je fais une rectificative. » Et là, il n'y a pas d'amende.
Mais du moment où tu reçois la lettre, c'est foutu, c'est trop tard. Donc oui, il y a des gruges classiques. Ça va être du black, évidemment. Tous les gens qui bossent au black. Il y a combien de personnes qui bossent au black en France ?
Beaucoup trop.
Tout le monde bosse au black.
Non, oui, s'il y en a plein qui bossent au black, on le sait. Hein, je veux dire, moi, je me suis mariée, je paye que des gens au black, hein, quasiment.
Pour ton mariage ?
Ouais, carrément, je n'ai pas les sous, sinon. Non, mais oui, il y a beaucoup de gens qui bossent au black. Ça, c'est pareil, il y a une espèce de tolérance, parce qu'on est humain aussi. Mais, par exemple, tu as une entreprise et tu déclares, je sais pas, moi, tu déclares que tu as un certain chiffre d'affaires, mais qu'il n'est pas cohérent. Imaginons, tu es docteur, hein. Je sais pas, tu déclares 5000 euros par an. Tu vois, ça va être problématique, quoi. C'est sûr que tu fais une activité annexe. Et là, il va y avoir des contrôles, je pense. Mais je pense que le black classique où tu peux gagner, je sais pas, jusqu'à 1000 balles par mois, on va peut-être pas trop chercher quand même. Alors attention, hein, c'est pareil, quand on déclare, ça n'a pas d'avantage que pour l'État. C'est que tout ce que tu touches dans ta poche, sur le coup, ça peut te sortir de la merde, et je le comprends tout à fait. Maintenant, pense que tu le cotises pas du tout pour ta retraite. Hein. Et moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'incite les gens à déclarer. Hein. C'est que, bon, après, remarquez avec la situation qui change, peut-être que ça va être difficile de sortir cet argument, mais voilà, moi, par exemple, je le vois notamment avec mon père. Gay, il a jamais rien déclaré de sa vie. Aujourd'hui, bah, il vit avec 400 balles par mois, quoi. Bon, bah, c'est un peu bien fait pour lui, quoi.
Ça t'est arrivé de tomber sur des grugeurs où tu te dises « Ah non, mais là, c'est abusé !»
Ah, mais il y en a, ils te regardent droit dans les yeux, ils sont venus avec leur fringue de marque, tu vois qu'il y a la Porsche qui est garée sur le truc et qui disent « Je pourrais avoir mon avis de non-imposition, s'il vous plaît ?» Et toi, t'es là « Non, mais tu te foutrais pas de ma gueule un peu quand même, s'il te plaît ?» Parce que... Quand même, quoi.
À la Cahuzac, quoi. Les yeux dans les yeux, madame, ouais. Je vous assure, je ne gagne pas d'argent.
Qu'a une problème, quoi. Et là, tu te dis, non, mais bah, ils sont quand même très cons parce que quand ils nous demandent leur avis, on leur donne, hein, il n'y a pas de problème. Maintenant, on peut noter le nom. Hein. Ça se fait aussi. Hein.
Ça se fait.
Et prévenir les collègues, hein, dire, c'est bizarre quand même. Il y a un truc qui n'est pas net. Ouais, ça se fait.
Ah oui, donc il faut vraiment. Don't play with les mecs les impôts. Quoi.
Disons qu'il faut pas nous prendre pour des cons. Essaye de pas me regarder dans les yeux avec un petit sourire en me disant de toute façon vous êtes teubés quoi. On est des humains, hein. On va te retomber dessus en fait. Parce que ça nous énerve.
Quand tu arrives dans un dîner en ville ou quand tu rencontres des nouvelles personnes et que tu dis bonjour. Et toi, tu fais quoi dans la vie, Victoire? Moi, je travaille aux impôts.
Ouais, ben, il y a le A. Ok. Ou alors il y a le moi je suis clean, hein, il y a pas de problème, je suis clean. Et toi t'es là ouais, en même temps ça va, je suis pas au boulot quoi, tu vois. Si j'étais docteur, je te demanderais pas de te déshabiller quoi.
Ouais, en revanche si tu rencontrais quelqu'un qui vraiment grugeait beaucoup, est-ce que t'aurais pas un petit cas de conscience?
Alors c'est compliqué là. On rentre dans les règles de déontologie. Il faut savoir que tout ce qui se dit dans le cadre privé normalement, je n'ai pas le droit de l'utiliser au travail. Je suis censée inciter la personne à déclarer, à faire ce qu'elle doit faire, son devoir civique, mais je ne suis pas obligée d'utiliser ce qu'elle me dit dans le cadre de mon travail, et même ce serait pas forcément bien vu que je le fasse. Mais c'est fait pour protéger tout le monde. C'est-à-dire que moi, par exemple, ça me protège. J'ai pas besoin de déclarer... Bon, là, maintenant, mon père, il fait plus rien, tu vois, mais s'il y a une époque, il grugeait vachement, je suis protégée, j'ai pas le droit de le dénoncer et je suis pas obligée de le faire. Et après, c'est vrai que moi, j'ai déjà eu des cas de gens qui me racontent des trucs de fou et moi, je suis là. Écoute, c'est un peu délicat. Souvent, j'ai tendance à dire aux gens, écoute, en fait, je bosse aux impôts, du coup, je te demanderai de te taire, au mieux. Si tu veux pas m'écouter quand je te dis de déclarer et tout, ben...
Me raconte pas.
Ouais, boucle-la. Ça évitera qu'on se mette dans des situations, quoi.
C'est chaud, hein.
Ouais, c'est chaud.
Est-ce que, à l'inverse, ça a pu te servir? Oh oui, Madame Victoire, vous travaillez aux impôts, mais je vous en prie, tenez, avantage.
Mais ça aussi, il y a des règles, on n'a pas le droit. Non, au mieux, c'est des chocolats de Noël. Hein. C'est déjà arrivé où, à une époque, il y a des petits...
Tu t'envoies des chocolats
Il y a beaucoup, beaucoup de gens, quand tu les as aidés... Moi, j'ai déjà quelqu'un que j'ai aidé à l'accueil, à dépatouiller d'une situation... C'était une femme qui venait de perdre son mari, qui avait découvert qu'il y avait beaucoup d'argent sur les comptes, qu'il ne savait pas. Et j'ai passé une heure avec elle à dépatouiller son dossier, lui dire ce qu'elle devait faire, ce qu'elle ne devait pas faire. Et la personne, elle m'a dit en partant, je vous laisse un billet, quoi. Et elle m'a sorti un billet, mais c'est un billet vert, quoi. Et là, t'es là. Alors, c'est gentil, mais non. Ça fout les boules, hein. Mais tu dis non parce que t'as pas le droit, en fait. Ça fait partie de ton travail. Mais on a le droit d'accepter les cadeaux, entre guillemets, de faible valeur et qu'on peut partager avec le service. Par exemple, on m'achète une petite montre à 20 balles, je dois dire non. On nous achète une boîte de chocolat qu'on partage avec le service, c'est OK.
Donc, on n'a jamais essayé de te corrompre vraiment pour l'instant.
On a essayé. Ah oui. Après, bien sûr qu'il y en a qui m'ont déjà dit, je sais pas, moi, c'est souvent des gamins, enfin, je dis des gamins, ils ont 19-20 ans, là, ils se croient les barons du shit. C'est assez drôle. Ils viennent et tout. Ouais, mais madame, ouais, non, allez, vas-y, si je te donne 200 balles, est-ce que tu fermes ta gueule, quoi? Et toi, t'es là. Mais non, en fait. Alors d'abord, on va redescendre. Et surtout, non, non, on n'a pas le droit.
Alors, je rebondis parce que c'est un exemple intéressant. On a déjà interviewé des prostituées à Thune Podcast qui se méfient du redressement fiscal. Et effectivement, je sais que ça arrive que les impôts puissent tomber sur le rable de personnes qui se prostituent, par exemple, ce qui est un métier hors légalité. Je ne sais pas comment ça se passe pour les dealers, mais apparemment, vous pouvez vraiment réclamer de l'argent à toutes sortes de gens, y compris si l'argent en question vient d'activités qui sont illégales.
Mais en fait, tout à fait. Alors d'abord, la prostitution en France n'est pas illégale. Hein. La prostitution est légale, autorisée. Tu n'as juste pas le droit de faire de racolage et tu n'as pas le droit d'avoir un macro. Enfin, un macro n'a pas le droit d'avoir des putes, quoi. Donc, mesdames, veuillez déclarer, s'il vous plaît, ce que vous touchez. C'est important. Après, là, les phases de contrôle, ça va être compliqué. Mais on peut... Hein. En fait, peu importe tes revenus... d'ailleurs, qu'ils soient légaux ou illégaux, de toute façon, tu es censé les déclarer. On te demande pas, nous, d'où vient l'argent que tu mets sur ta déclaration. On te demande de payer les impôts qui sont dus suite à cet argent reçu. Un redressement fiscal sur une prostituée, moi, me paraît délicat. Sauf si la prostituée se fait payer en virement, quoi. Et puis, si elle dépose l'argent sur son compte, il est évident que ça va se savoir. Maintenant, elle a tout à fait le droit de déclarer ses revenus. Il peut y avoir une estimation. Chez nous, on marche à l'estimation.
Ça peut être très cruel, d'ailleurs, parce que j'ai cru comprendre pour des femmes qui essaient de s'en sortir et qui, du coup, n'ont plus ces revenus-là. quand elles arrêtent. Le jour où elles
oui, parce qu'on peut retourner 3 ans en arrière. Et là, c'est violent. C'est pour ça que j'insiste. Il vaut mieux les déclarer, entre guillemets, parce que comme ça, t'es tranquille. Ou alors, si tu déclares pas, fais en sorte que 3 ans après, t'es toujours la somme due, quoi. C'est facilement estimable, hein. Tu vas sur impots.gouv.fr, tu fais une petite simulation, tu marques tes revenus annuels.
Et pour les dealers, alors, c'est pareil, vous pouvez estimer.
Ouais. Bon, on va être un peu plus sauvage, hein. Ouais, c'est peut-être à la tête du client, mais on a plus de problématiques avec les dealers qu'avec les prostituées, parce qu'en effet, une prostituée, on va dire, ouais, elle essaye de s'en sortir, je sais pas. Ça fait plus pleurer dans les chaumières, entre guillemets, qu'un dealer, oui, il essaye de s'en sortir, mais au passage, il rend addict des gens, il rend malade des gens, et bon, bref. Après, ouais, ça peut être le même principe, on fait des estimations. Après, c'est quitte ou double. Après, une fois qu'on est estimé, à toi de nous prouver qu'on a tort, hein.
Que t'es un mauvais dealer et que t'as pas tant de clients que ça.
Carrément, je sais pas comment tu fais, hein,
que ton shit, il est frelaté. Il y a des contrôles sur le patrimoine aussi, pas seulement sur les revenus.
Bien sûr. Bien sûr, d'autant plus que maintenant, on n'est plus à l'impôt sur la fortune, on est à l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, on est bien sur des questions de patrimoine, quoi. Donc là, la personne doit déclarer ses biens, doit estimer ses biens. Après, quand on commence à avoir du patrimoine, un avocat fiscaliste, c'est pas mal, hein. C'est un investissement qui, en plus, peut se déduire, donc faut peut-être le faire, quoi.
Donc, il faut que les gens fassent réévaluer leurs biens régulièrement, éventuellement, pour voir s'ils valent toujours la même somme.
Ça, c'est pareil, personne le fait. Moi, la personne que je connais qui m'a dit un jour « Est-ce que tu peux m'aider ?» Je regarde son truc, elle a un immeuble à Paris, il y a 11 logements dedans, et elle a estimé ça à 500 000. Je lui dis « Mais t'as estimé ça quand ?»« Bah, il y a 30 ans. »« Bah ouais, mais enfin, depuis 30 ans, ton truc... Et ça a monté, quoi. Et en fait, ça, c'est pareil. Hein. Tant qu'on ne lui est pas tombé dessus, j'ai envie de dire bonne chance. Là, maintenant, elle est prévenue. Hein. Moi, je lui ai dit. Hein. J'ai dit, écoute, je me décharge complètement du dossier. Tu vas aller voir un avocat fiscaliste. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fini par faire. Et elle a réévalué le truc. Si on lui tombe dessus, ça risque de faire mal, en effet.
Est-ce qu'on te pleure beaucoup sur le mode « Mais en France, on étouffe les gens qui essayent de s'en sortir, de créer du travail avec les charges, les taxes, mais les impôts, madame ?»
Tellement, tellement tout le temps, quoi. Et autant j'arrive à plus ou moins l'entendre chez les particuliers. Les gens, chez les particuliers, vont dire « Bah ouais, mais moi, je touche 2000 nets par mois, mais du coup, je reverse tant et en fait, je m'en sors pas. Il y a les tranches moyennes, là, c'est franchement compliqué. » Moi, je plains que les moyens, c'est-à-dire que les aisés, je dis, oh, les gars, ils te restent toujours assez pour manger, quoi. Et les tranches basses, elles sont quand même relativement favorisées en France au niveau des impôts. Après, pour le reste, je ne me prononcerai pas. Mais par contre, ceux qui essayent de nous faire pleurer dans les chaumières, là, qui sont les entreprises à qui on dit « vous n'avez pas payé votre TVA de l'année », là, et qui disent « oui, mais vous comprenez, conjoncture actuelle, bla, 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 bla », moi, j'ai du mal avec eux, parce que la TVA, c'est pas eux qui la payent, hein. C'est les clients. Et les clients, ils l'ont payé tout de suite. Hein. Il n'a pas fait de délai hein, pour tout ça. Et donc là, j'ai plus de mal. Je comprends qu'on pleure sur certains impôts. Après, il faut rester cool. Hein. Et surtout que si tu demandes de l'aide, on peut te dire à l'avance un petit peu comment ça va être. Le système n'est pas si compliqué que ça. Si tu montes ta boîte, tu peux savoir que par rapport à ton chiffre d'affaires, tu vas payer tant par an. Ça se prévoit en fait. On est des humains encore une fois et on arrive à comprendre que tu te sois plombé une fois. Franchement, ça peut arriver à tout le monde, quoi. Par contre, il y a des arguments qu'on n'aime plus entendre. Quand on est en 2024 et qu'on te parle encore du Covid, c'est chiant. Alors bien sûr que ça a eu un impact, mais depuis, si ta boîte elle va pas mieux, c'est qu'il faut fermer, quoi. Ça marche pas. Repart de zéro, fais quelque chose. Après, il y a tout ce qui est liquidation judiciaire et compagnie aussi. Hein. Ça solde, hein.
On ferme.
Mais rien t'empêche de repartir. Hein. Il y en a beaucoup qui le font, il y a des spécialistes. Hein.
Alors, les gens ont plein d'arguments pour dire qu'ils n'aiment pas les impôts, alors, ou qu'ils n'aiment pas les payer, ou qu'ils ne sont pas d'accord. Alors, il y a des arguments comme c'est mal utilisé. Et puis, il y a l'argument de si on récupérait tous les impôts des super riches ou qu'on les taxait plus, il n'y aurait pas besoin de taxer moi. Tu dois t'en taper tous les jours des discours comme ça, toi.
Complètement, mais bon, en même temps, honnêtement, ce n'est pas sur les petit Pékin qu'on tape le plus parce que c'est pas eux qui nous rapportent le plus en fait, donc bien sûr qu'on les contrôle, on contrôle aussi les super riches. Après ouais, quand on contrôle un super riche et qu'on se rend compte que on a vu plein d'affaires comme ça, d'argent détourné, on essaye de récupérer l'argent, mais il faut tomber dessus. C'est pas évident, quoi. Et oui, peut-être que si les super riches payaient leurs impôts en France, on aurait peut-être moins d'impôts pour les un peu plus bas. Je pense la même chose. Hein. Je fais partie des gens qui payent leurs impôts et que ça saoule. Hein.
Quand tu vois des cas médiatiques, Balkany, Cahuzac, etc., ça t'intéresse ou ça te rappelle le boulot?
Non, ça m'intéresse, mais... Ça m'intéresse et en même temps, à chaque fois, je suis sur le cul. En fait, je suis intriguée, quoi. Je me dis, mais par où t'es passé, quoi? Enfin, mince, j'ai l'impression de faire le mystère de la chambre jaune, tu sais, mais avec leur argent, quoi. Je me dis, mais...
Comment c'est possible dans mon administration à laquelle je crois autant?
Ouais, c'est pas que je crois tant, c'est que je me dis, t'as quand même dû tomber sur un sacré paquet de pourris. Et du coup, t'amènes quand même au moment où tu te dis, en fait, plus t'es haut, plus tout le monde se laisse un peu embarquer, j'ai l'impression. Et ça, moi, ça, c'est quelque chose qui me pose problème.
Et oui, et vous êtes contrôlé.
Ah bah oui, au moins une fois tous les 2 ans.
T'es contrôlé, tous les contrôleurs, tous les agents du fisc se contrôlent mutuellement.
Tous les agents du fisc sont contrôlés au moins une fois tous les 2 ans, plus une fois tous les 5 ans, de façon plus approfondie, quoi. Tous. Enfin, je dis tous, hein. On parle pas des ministres.
Hein. Ah, pas les ministres.
Bah, ou alors mal, hein, parce que...
Mais tous par des collègues. Donc, est-ce qu'il y a c'est plus sympa du coup comme contrôle?
Non, c'est pire. On est hyper intransigeant. C'est l'exemplarité du fonctionnaire. Mais ça va au-delà de la déclaration d'impôt. Hein. Mais notre déclaration d'impôt doit être nickel. On est contrôlé et si c'est mauvais, c'est remonté à notre hiérarchie et on prend un blâme au niveau de notre travail. Ça va assez loin, quoi. Après, on n'est pas contrôlé par le collègue d'à côté. Hein. On va être contrôlé par la direction du département, par exemple, ou par des brigades spécialisées. Mais c'est pas le Pékin d'à côté là qui va me contrôler. Même si, il faut savoir que, par exemple, quand tu bosses en service des impôts des particuliers, que tu donnes ta déclaration comme tout le monde, t'es censé être traité comme n'importe qui, et donc ta déclaration risque d'être servie dans le service, quoi. C'est assez logique. De là où tu travailles, c'est là où t'habites généralement. La collègue qui va tomber sur ta déclaration, si elle s'en rend compte, c'est pas toujours le cas, hein, parce que s'il suffit que tu mettes ton mari en premier, enfin bon, bref, peu importe, elle a le droit de faire remonter la déclaration pour ne pas la saisir elle-même et ne du coup pas être impactée en cas de pépin. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je crois que quelqu'un voulait pas saisir ma déclaration parce que je crois que ça devait être l'année où j'avais eu mes gosses et il y avait plein de frais annexes. Je crois qu'elle a pas voulu s'embarquer là-dedans. Du coup, elle a refilé. Mais elle m'a dit, j'ai refilé ta décla au chef, tu te débrouilleras, quoi. Bon, le chef a saisi ma décla et derrière, il y a peut-être eu un contrôle, j'en sais rien. Mais j'ai jamais été inquiétée, hein. Donc,
Ça rigole pas, hein?
Non. Enfin, ça plaisante pas avec ça. Non, mais on n'est pas contrôlé que pour ça. Quand je parle d'exemplarité, moi, demain matin, je prends la route, j'ai un peu bu, hein, la veille. C'était fête et tout, j'ai un peu bu, j'ai un peu pris des stupéfiants. Je risque la peine comme n'importe quelle personne. Mais après, derrière, j'ai un autre contrôle. Enfin, ça remonte à ma direction, en fait. Et moi, j'ai un blâme. Je peux être virée de mon travail ou prendre des jours de suspension pour ce genre de choses. Le fonctionnaire, ok, il a des droits et c'est cool. Il a aussi des devoirs où t'as pas intérêt de moufter, quoi.
J'ai l'impression que c'est plus dur que dans d'autres endroits de la fonction publique. Hein.
En même temps, hein, avec les costumes gris-souris, on rigole pas trop. Hein. Et puis tous les ans est publié sur notre site intranet le relevé des sanctions, hein, de tous les gens. Et là, c'est affiché. Hein. Il y a ton nom, ton prénom, et il y a marqué pourquoi, la peine que t'as eue et tout. Hein.
Est-ce qu'il y a des professions ou des degrés de richesse ou des types de gens qui grugent plus que d'autres?
Bah, pas forcément. En revanche, il y a des types de professions qui vont plus dans les petites lignes. Je pense notamment à nos chers professeurs de l'éducation nationale qui sont la bête noire de toutes les personnes qui doivent répondre à leurs messages ou contrôler ce qu'ils font, quoi. C'est une bête noire incroyable. Tu sais que l'enseignant, il est connu pour être chiant, quoi. Tu connais un peu les conditions des enseignants. Ils doivent se payer leur ordinateur, leur plastifieuse. Et en fait, ils veulent tout déduire. Tout. Ils vont pas déduire la moitié de leur MacBook qu'ils ont acheté pour ça. Ils vont déduire la totalité du MacBook parce qu'ils ne l'utilisent que pour ça. Mais c'est un truc de fou, quoi. Moi, j'ai déjà vu un professeur qui avait voulu déduire donc son ordinateur en totalité. Et moi, j'avais essayé de défendre un peu le truc auprès de mes collègues. Elles m'ont dit, OK, bah viens, on regarde ensemble, quoi. Ok, très bien. Il y avait l'ordinateur. Il y avait la planche de chez Castorama pour construire le bureau. Tu vois, il y avait... Tout était déduit. Et en fait, il déduisait aussi une certaine partie de l'électricité et tout. Et alors, il faut savoir qu'ils ont le droit, étant donné que c'est une profession où tu dois investir un minimum pour travailler chez toi. Si tu n'as pas de bureau pour travailler sur ton lieu de travail. Et en fait, du coup, ils doivent nous fournir une attestation de leur employeur ou de la directrice d'école ou je ne sais quoi, qui dit qu'il n'y a pas de bureau. Mais en fait, souvent, c'est juste qu'ils n'ont pas envie d'être à l'école pour bosser sur ça, tu vois. Ils bossent chez eux parce que c'est comme ça et parce qu'ils ont pensé qu'ils allaient pouvoir le déduire. Mais non, gars, tu peux pas nous déduire l'électricité de ta maison en partie parce que... Donc ouais, la grosse bête noire.
On est sur des cas un peu fin, quoi, un peu limite, en fait.
Ouais, en fait, c'est ça. Si on regarde la somme, on se dit, tiens, c'est bizarre, il y a beaucoup de frais réels quand même. On va acheter un œil. Par exemple, une hôtesse de l'air, si elle n'est pas défrayée pour le pressing et tout, elle a le droit de déduire en partie ces trucs. C'est les rares cas où, en fait, tu peux déduire tes fringues, tu vois. Mais il y a des gens qui estiment qu'ils peuvent déduire leurs fringues parce que, voilà, ils bossent... Ils bossent avec leurs fringues de tous les jours. Mais oui, mais moi, j'achète des jeans exprès pour ça. Oui, mais non, en fait, tu les auras achetés même si tu bossais pas, quoi.
Donc, c'est plutôt vraiment des cas limites. C'est pas plus ouais. On est riche, plus on gruge, ou plus on est pauvre, plus on gruge. Ça, par exemple, déjà, ça te parle
non.
pas.
Non, mais il y en a qui sont drôles. C'est ceux qui sont pas vraiment très riches, mais qui sont un peu plus riches que la moyenne, tu vois, la classe moyenne haute, hein, et qui d'un seul coup te parlent d'investissement Pinel, de Duflo, de déduire et tout. Et en fait, quand tu discutes avec eux du truc, tu te rends compte que bon, ils sont pas bien au courant déjà, et ils font semblant de savoir, mais du coup ils se mettent dans la merde. Hein. Enfin, je veux dire,
ils se font croire qu'ils ont droit à des trucs alors que.
Ouais, en fait c'est ça. Ou alors ils ont dit ah trop cool, ça va être déductible machin et tout. Sauf que pour déduire, il faut que ce soit loué non-stop pendant 15 ans et tout. Et toi t'es là, bah ouais mais. Enfin c'est vous qui avez décidé de mettre votre fils dedans l'année dernière. Du coup on te reprend. C'est les rares fois où on peut remonter à plus que 3 ans. Hein. C'est-à-dire dans des cas comme ça.
C'est-à-dire quel cas ?
Bah, par exemple, je sais plus si c'est Pinel ou Duflo, à l'époque, il y avait un cas où tu devais justement mettre en location pendant 15 ans, par exemple. Et si, au bout de la 14e année, tu te trompes et tu revends ton bien, on remonte et tous les avantages fiscaux que tu as eu pendant 14 ans, bah... Bonjour, retour à l'envoyeur, quoi.
On te gruge pas énormément sur les Airbnb ? C'est un peu la problématique contemporaine.
Si, on en a quelques-uns. C'est assez difficile parce que le siège de Airbnb n'étant pas en France, c'est une brigade particulière spécialisée dans les... Alors, pas les revenus étrangers, mais il y a une convention, en fait, européenne, et c'est compliqué pour l'instant, il faudrait qu'on règle ça. C'est en cours, hein, évidemment.
Ah, bon, à savoir. Pour l'instant, vous n'êtes pas opérationnel sur ce sujet.
On n'est pas totalement opérationnel, et en même temps, on a des possibilités de voir, quoi. Ça dépend aussi si tu le déclares en tant que particulier, ou si t'en fais vraiment ton taf, quoi.
Tous les comptes à l'étranger, vous pouvez pas vraiment le savoir, en réalité.
Bah, tu sais, je sais pas si t'as vu, il y a aussi vachement de néobanques là, Revolut, bon, plein, Vivid et compagnie.
Les cryptos, tous les cryptos.
Ah, les cryptos, c'est l'horaire. On n'est pas encore très au point là-dessus, mais c'est en cours. Hein. Le truc, c'est qu'on a effectivement un train de retard. Ça va arriver, hein, on va s'y coller. Mais il y a eu beaucoup de choses comme ça où ça a été complètement dingue. On s'est dit, non mais attends, en fait... Après, on a des conventions avec l'étranger. Normalement, les plateformes étrangères sont censées nous transmettre les chiffres, hein, après...
Sont censés.
C'est toujours compliqué. Bah, c'est comme quand on fait des saisies sur les comptes. On va faire des saisies parfois sur les comptes étrangers, hein, parce qu'ils sont connus chez nous. Et en fait, on va faire une saisie. Et bon, les banques, elles doivent nous répondre dans le mois. Oh, si elles nous répondent, c'est bien. Hein. Clairement, il y a des fois, elles ne nous répondent pas du tout.
On a parlé des réseaux sociaux, des comptes à l'étranger, des cryptos. Il y a plein de choses qui... où peut-être vous n'êtes pas à jour, mais il y a beaucoup moins d'espèces, beaucoup moins de cash. Beaucoup moins de billets.
Oui.
Est-ce que c'est pas un avantage pour vous ? Les gens ont très peur, par exemple, s'ils ouvrent un compte et qu'ils mettent de l'argent dessus, que les impôts s'en rendent compte.
Oui, c'est vrai, ils ont raison. Non, en fait, pour un contrôle lambda, nous, on sait que tu as ouvert un compte. On ne sait pas la somme qu'il y a dessus. Il faudrait vraiment pousser un peu plus loin. Et ça, il y a des habilitations. Pour un contrôle lambda, on ne va pas aller chercher combien tu as sur ton compte. Hein. Ça ne nous regarde pas, en fait. On sait que tu as un compte. On va aller chercher l'argent dessus si on peut. C'est-à-dire que là, on interroge la banque. On leur dit, voilà, on a une dette de temps. Veuillez nous le donner. Les banques, elles disent, bah, je peux vous donner tant parce qu'il y a des seuils minimums que tu ne peux pas recouvrer, tu sais. La disparition de l'espèce pose cette problématique parce qu'en effet, tout passe maintenant par les banques. Mais le plus gros problème, là, ça ne va pas être dans le contrôle de l'impôt, c'est que les banques, tu sais, quand tu retires une certaine somme d'argent, elles vont te demander de justifier ça. Et en fait, ça, à la base, c'est surtout pour éviter le blanchiment d'argent, mais aussi tout ce qui est terrorisme, activité terroriste. Ça a été vachement la bête noire, en fait, à cause du terrorisme. Parce qu'on s'est rendu compte que tout cet argent au black... Alors, tu payes ton fleuriste au black, on s'en fout. C'est pas ça qui nous intéresse et qui va intéresser le fisc.
T'achètes des armes, un fourgon, voilà.
Là, par contre, t'achètes des armes, bah, tu vois... C'est problématique. Donc, si tu sors 20 000 balles de ton compte, nous, on est tenus au courant de ça. Alors, je te dis nous, pas le Pékin lambda. Hein. Ça remonte dans des unités spécialisées. Hein. Mais ça, c'est important.
Et en revanche, tu ne sais pas combien j'ai sur mon compte en banque.
Non, je ne le sais pas. Moi, je peux pas le savoir. Je sais qu'il y a des unités qui peuvent le savoir. Mais il faut que le contrôle soit poussé et que la fin en justifie les moyens. C'est-à-dire que si c'est parce que tu nous dois 2000 balles, on n'aura jamais le droit d'aller voir. Maintenant, tu nous dois 150 000 balles, t'es un multirécidiviste et compagnie, il y a des moyens, quoi.
Les banques sont-elles vos alliées ?
Pas nécessairement. C'est incroyable, elles protègent énormément aussi, elles se couvrent hein, aussi. Hein. Elles ne sont pas nos alliées. Non, clairement. Moi, je fais régulièrement des saisies. Les banques, elles me disent « Oui, mais nana... »
Ouais, en revanche, souvent, elles demandent les avis d'imposition. Nous, elles nous demandent des choses.
Oui, mais c'est parce que... Mais elles ne sont pas vos alliées non plus. C'est pas les nôtres, mais les banques, elles travaillent pour elles, quoi. C'est tout.
Oui, c'est pour se couvrir, c'est pas pour...
Ouais, voilà. Ouais. Elles se couvrent énormément. Et puis, il y a des droits maintenant. Les droits évoluent, hein, clairement. Et c'est rigolo parce que nous, par exemple, il y a une loi qui est passée qui nous fait dire que... Non, mais attends, comment est-ce qu'on va recouvrer, quoi, notamment sur les auto-entrepreneurs. Maintenant, tu n'as plus le droit de saisir sur les comptes personnels. Là, ça devient compliqué. Hein.
Ah oui, l'auto-entrepreneur, c'est pas sa boîte, il est en responsabilité personnelle.
Ouais, sauf que maintenant, la loi a fait que depuis 2023, mai ou quelque chose comme ça, toutes les dettes qui viennent après, elles ne sont pas saisissables sur compte personnel.
Toutes les dettes ?
Ouais, si tu as des dettes au nom de ton entreprise, tu vois, je ne sais pas moi, tu n'as pas payé... les bénéfices commerciaux, non commerciaux, tout ça. T'as pas payé tes impôts en tant qu'entreprise. Nous, on va saisir ta banque et ta banque, elle dit oui, mais attendez, c'est un compte personnel. Donc, niet. Et il peut y avoir 50 000 balles, quoi. Et toi, t'es là. Ouais, alors là, tu m'aides pas, clairement. Mais tu vois, ça, c'est l'État hein, qui a voté cette loi-là. Hein.
Et qu'est-ce que tu peux dis, tu peux rien faire, toi. T'es
ça
fini.
N'a pas de sens, quoi. Bah, tu je fermes continue le truc. À saisir, je cherche d'autres comptes, j'essaye de t'envoyer des courriers. Au bout d'un moment, de toute façon, c'est rare qu'ils ne payent pas pour une seule échéance. Après, les dettes grossissent. Après, on radie la société. On fait en sorte de la radier pour qu'elle ne puisse plus exercer. Mais c'est hyper compliqué, quoi.
Et très long.
Très long. Très, très, très long. C'est pour ça que je te disais, il y en a qui sont professionnels. Ils liquident la société. Bof, emballer ses bouclés, puis elle recommence, quoi.
Ah ouais ?
Ouais, il faudrait trouver des systèmes là.
Ah là, il y a un petit filon pour les gens qui aiment l'illégalité, qui sont vraiment vos ennemis, quoi.
Ouais, après, ça devient compliqué parce que... Enfin, chez nous, c'est fini maintenant. Il y a tout le reste, hein. Il y a le système judiciaire qui se met derrière. Après, faut accepter, quoi.
Et puis, tu fais remarquer que tu as le droit de remonter jusqu'à 3 ans maximum.
Pour ouais, selon les cas, ouais.
Si quelqu'un a grugé, et tu peux t'en rendre compte éventuellement depuis 10 ans ou 15 ans, finalement, à la fin, il y gagne, en fait.
Bien sûr, il y gagne vis-à-vis de nous. Vis-à-vis de nous, après, sa retraite et compagnie, on en reparle. Hein,
ouais,
mais,
ouais,
mais ouais, ouais, globalement, effectivement, il est protégé. Hein, pas vu, pas pris. Hein.
Et alors, les très riches. Moi, j'avais entendu parler de cette cellule spéciale, je ne sais pas si elle existe toujours, à Bercy, pour les people, pour les gens très importants. Est-ce que les très riches, c'est le contrôleur lambda ? Est-ce que les stars, est-ce que les grandes fortunes, c'est toi ou tes collègues qui peuvent se retrouver nez à nez avec ce genre de personnes ou est-ce qu'il y a un traitement spécifique ?
De base, n'importe qui est traité comme n'importe qui. Mais si tu es quelqu'un de très connu, de très riche ou d'une situation un peu particulière et que tu ne souhaites pas que n'importe qui tombe sur ton cas. Par exemple, je sais pas moi...
Un homme politique, une chanteuse à succès.
Voilà, n'importe qui. Tu peux te signaler en effet auprès d'une cellule et en fait ton dossier va apparaître comme confidentiel. C'est-à-dire que n'importe qui peut te trouver, mais dès qu'on rentre dans ton dossier, ça bloque. À savoir que nous, à chaque fois qu'on rentre dans un dossier, potentiellement, on peut nous demander pourquoi on y est allé. Et ça, ça arrive régulièrement. Ça m'est déjà arrivé à moi, par exemple. Tiens, bah, pourquoi t'es allé dans ce dossier-là? Qu'est-ce que t'es allé voir? Quel est le rapport avec toi? Je sais pas, j'étais chez les particuliers et c'était une entreprise. Qu'est-ce que t'es allé voir?
Est-ce ah oui,
que
t'as pas le droit parce que, effectivement, tu pourrais t'en servir pour tes intérêts personnels.
Bien sûr. Tiens, c'est ton temps, hein.
J'aimerais bien savoir combien il gagne, le mec, et qu'est-ce qu'il déclare, le mec que je viens de rencontrer. Je dis n'importe quoi.
Ouais, par exemple, ouais. Tu peux être tenter et ça c'est une grosse chasse et c'est un des premiers trucs qu'on t'apprend, c'est non, il y a des sanctions, ça fait partie des principales sanctions qui sont données chaque année. On te demande pourquoi t'es allé sur un dossier, si t'es pas capable de répondre t'as un blâme, une deuxième fois si t'es pas capable de répondre tu peux avoir de sérieux ennuis.
Vous êtes méga contrôlé.
Ouais, et puis alors va pas chercher un dossier de quelqu'un qui a le même nom que toi, hein. Très mauvais plan, hein. Parce qu'on pourrait se dire, par exemple, tiens, je vais aller chercher le dossier de ma mère. Mais s'ils s'en rendent compte, bah après, ils sont pas bêtes. Hein. Ils voient ton nom, ils voient le nom de la personne. Bon, et là, par contre, tu te fais... T'as pas le droit de t'expliquer, là.
Il y a un côté Matrix, Brésil, 1984. On a l'impression qu'il y a des yeux partout qui te regardent.
Bah, tu sais, c'est ultra contrôlé. Hein. C'est, y a des gens qui sont payés à ça chez nous. C'est un des métiers chez nous de vérifier que tout le monde respecte la déontologie et ce genre de choses. Après, c'est plutôt bien, hein. C'est important. Hein.
Est-ce que ça vous arrive de croiser avec les réseaux sociaux? Le côté quelqu'un déclare effectivement pas grand-chose et puis sur son Insta, il passe son temps dans des palaces de luxe avec des grosses bagnoles à faire des voyages incroyables.
On n'est pas censé. Je sais que ça se fait. Souvent, c'est pas pour appuyer un contrôle, c'est plus pour aller vérifier si notre intuition est bonne ou pas. C'est-à-dire que, bon, on a l'impression
que... Ça n'a pas valeur de preuve, mais ça...
Non, voilà, c'est ça. Va prouver que t'es allé sur son profil pour ça, précisément. Surtout si c'est une influenceuse connue, par exemple. Maintenant, c'est mal vu et tu pourras pas t'en servir de preuve. Ça me viendrait pas à l'esprit, tu vois, d'aller dire « Ah putain, j'ai vu telle personne, elle déclare, je sais pas moi, 5000 balles par an, mais sur les réseaux, effectivement, elle est tout le temps à Dubaï et compagnie, je trouve ça louche. » Les gens, ils vont me regarder et me dire « Tu te bases sur quoi ?» On n'a pas le droit de faire des contrôles sur rien, quoi. Et ça, c'est rien.
D'accord. Contrôler les flics, contrôler les hommes politiques, contrôler des gens qui ont du pouvoir.
Les flics, ils n'ont pas de pouvoir. Non, mais enfin, je veux dire, les hommes politiques, c'est autre chose. Il y a une vraie notion de pouvoir. Hein. Ils peuvent demander à être contrôlés par l'équipe spécialisée. Il y a peu de chances que toi, tu te retrouves à contrôler quelqu'un qui devrait avoir un vrai pouvoir.
Est-ce que ça t'arrive d'avoir des pressions de ta hiérarchie? Est-ce qu'on peut te dire « Non, regarde pas tellement celui-là, regarde celui-ci. » Pour des raisons, d'ailleurs, X ou Y, mais...
Ça peut arriver. Plus regarder ce dossier-là qu'un autre, je sais que j'ai des collègues qui ont déjà eu le cas. Et là, c'est délicat parce que ce que tu dois faire dans ces cas-là, c'est en référer à ta hiérarchie. Donc, tu dois passer un cap et... Ça se règle en interne, mais c'est assez compliqué, quoi.
On n'a pas envie d'être dans cette situation-là, j'ai l'impression. Hein.
Non, clairement, quoi. Ça te met mal parce que, du coup, tu te mets à soupçonner des trucs et tout. Moi, je connais des collègues, une collègue qui a été dans une trésorerie, parce que les impôts, c'est aussi ça, hein, qui a été dans une trésorerie et le trésorier piquait dans la caisse, quoi. Il piquait pas beaucoup.
Des impôts.
Ouais, il faisait ça. Il piquait dans la caisse. Alors, il ramenait les sous après, hein. Super, mais en fait, t'as pas le droit. Et là, c'est délicat. T'as pas envie d'être dans une situation comme ça parce que là, tu vas être très, très embêté, quoi. C'est ton chef. À tout moment, toi, tu vas avoir des problèmes, quoi.
Ah ouais, l'horreur. Le contrôleur des impôts qui bascule du côté obscur du crime.
Ouais, c'est
du
ça.
Vol.
Mais ça arrive, hein. C'est comme les pourris chez les flics, hein. Ça arrive assez souvent, quoi. Tu te rends compte qu'il y a des gens. Bah, ça les rend fous. On a l'impression d'avoir un certain pouvoir quand même, tu sais, avec l'argent. Parce que, notamment un trésorier, bon, maintenant, ça se fait moins parce qu'il y a moins d'espèces.
Quelqu'un qui n'aurait pas déclaré ses impôts pendant très longtemps et qui irait tout d'un coup se dire, tiens, je sais pas, pour une raison X ou Y, j'ai des enfants, j'ai envie de me mettre carré, et qui viendrait toquer à votre porte, bonjour, qu'est-ce qui lui arrive?
3 ans max. Tout ce qu'il a pas déclaré avant, c'est perdu, entre guillemets, pour nous comme pour lui. Parce que lui, il peut en avoir besoin, hein, mais nous, c'est trop tard, 3 ans max. Souvent, on a par exemple les gens qui sortent de prison, qui sont pas au courant en fait. Quand ils sont en prison, ils sont un peu, c'est un système à part quoi. Vous aviez interviewé quelqu'un qui était en taule, tu vois bien, ils sont dans un microcosme quoi. Et donc des fois ils sortent de prison, ils nous disent, c'est délicat d'ailleurs, hein. Et nous on leur dit, mais pourquoi vous avez pas déclaré pendant 10 ans? Bah moi j'étais en taule. Ah ouais, j'ai tué ma femme. Ah. Alors, je vous explique, vous allez déclarer...
Le formulaire AB, la coche D.
C'est assez exceptionnel. Souvent, dans ces cas-là, on leur propose un rendez-vous et on les aide. Parce que si t'as pas déclaré pendant des années, tu vas pas bien t'en sortir, les choses ont changé et tout. Là, on va t'aider un petit peu, on va faire du social, hein, souvent.
Mais à la fin, t'auras peut-être une amende à payer quand même, parce que t'as pas déclaré.
Ouais, ça dépend, hein, ça dépend. D'abord, c'était non imposable. T'as aucune amende, hein, parce que ton amende, elle est en fonction de ce que t'es imposable.
Ah oui, c'est un pourcentage sur... Bah oui. Donc un pourcentage de zéro, ça fait zéro.
Bah voilà, c'est ça. Donc il y a aucun problème là-dessus.
Est-ce qu'il n'y a pas une vraie inégalité par rapport à ça? Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un de très riche va avoir effectivement des avocats fiscalistes, peut-être des gestionnaires de fortune, des comptables. Quelqu'un qui est moins riche ne va peut-être pas être au courant de toutes les optimisations, défiscalisations, niches qui lui permettraient de connaître ses droits et d'économiser sur ses impôts.
La personne qui est moins riche en France, elle est moins imposable. On a un système de tranches, mais c'est pas tu gagnes de temps à temps, t'es imposé de 15%, tu gagnes de temps à temps 20. Non, non, c'est 15 plus sur la tranche qui dépasse 20, plus sur la tranche qui dépasse... Bon, voilà, on va pas refaire le système, mais du coup, quelqu'un qui est moins riche, d'abord, il peut toujours venir nous voir pour être au courant de ses droits. On n'est pas conseillers fiscaux. En revanche, on a le droit et le devoir de te donner... toute l'information. Aujourd'hui, c'est pareil en France. Tu sais comment tu dois faire pour te faire rembourser d'un achat que t'as fait et qui était pas le bon. Sur Internet, tu peux trouver la brochure des impôts. Il y a aucun problème. Si tu n'arrives pas à l'analyser, tu nous demandes, tu nous dis, écoutez, j'ai vu ça. Est-ce que ça veut dire que? Et nous, on te dit oui, non, bon. Tu tombes sur quelqu'un d'un peu gentil, il va te pousser dans le bon sens. Tu tombes sur quelqu'un de méchant, il a au moins le devoir de te dire oui ou non.
Ouais, enfin, si c'est pour te prendre une amende derrière, non.
Ah bah non, après, ça c'est pareil. Hein. Si tu poses une question à quelqu'un, par exemple, tu m'envoies un mail, ok, tu me dis, est-ce que si j'ai le droit de déduire ça? Si je te dis oui, mais si je me suis trompée, tu prends le mail, tu le mets en copie lors de ton contrôle, tu es couvert. J'engage l'administration.
Ça arrive que l'administration en question fasse des erreurs. Alors, j'ai connu un cas qui a traîné une erreur et une bataille juridique avec l'administration. Je ne sais pas s'il a fini par s'en sortir. Ça avait l'air d'être un cauchemar. Hein.
Ah, c'est compliqué, ouais. Ça peut être compliqué.
Est-ce que ce n'est pas un peu le défaut dans la cuirasse, cette affaire? Enfin, je veux dire, si tu commences à contester...
Bon, t'as le droit de contester. Maintenant, effectivement, quand tu contestes, il faut être sûr de ce pourquoi tu contestes. Attention, il y a tout un système. D'ailleurs, quand tu reçois un contrôle, systématiquement, on te marque les coordonnées en cas de préjudice ou quel que soit le problème. Hein. T'as le droit d'aller au conciliateur fiscal et après au tribunal administratif. Ça peut être compliqué.
D'abord, tu dois payer avant.
Ouais, mais ça, c'est tout. Hein. Dès que tu veux contester quoi que ce soit pour nous ou porter plainte pour quelqu'un qui t'a volé de l'argent, tu dois payer. Ça, c'est le système français qui est problématique. Mais en soi, après, t'as aussi le droit de demander des intérêts moratoires. Ça arrive. Par exemple, dans un cas particulier, là, on a prélevé de l'argent à quelqu'un, une entreprise. On a prélevé trop. Et c'est pas de sa faute à elle, c'est nous. Bah, c'est nous. Bah, cette personne, elle a le droit à des intérêts moratoires qui sont du même montant que les intérêts de retard qu'elle aurait eu envers nous si elle avait pas payé cette somme-là. Bon, on fait comme on peut pour essayer d'être juste. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours des couacs. Hein. Après, là derrière, c'est le système judiciaire qui est censé prendre le pas. Bah, ça marche ou ça marche pas, c'est un autre débat.
Est-ce qu'il y a moyen de négocier? Dans un contrôle fiscal, est-ce qu'il y a des bons arguments pour...
Oui.
Est-ce qu'il y a des jeux de négociation, des...
Complètement, j'ai appris ça là, il n'y a pas longtemps. Je sais que ça se fait pour les entreprises, donc je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas pour les particuliers. Mais par exemple, il existe un cas, tu es contrôlé, une entreprise est contrôlée. Il se trouve qu'on arrive à un certain montant. Je ne sais pas, moi, tu n'as pas déclaré ta TVA ou je ne sais quoi. On arrive à un certain montant. Et donc derrière, tu as des pénalités. Et en fait, si tu acceptes ce montant, et que tu renonces au recours administratif, donc que tu fais gagner du temps, et que tu payes dans les 30 jours, les pénalités sautent. Ça, c'est plutôt pas mal.
Mais est-ce que tu peux négocier d'humain à humain avec le contrôleur, dire en gros, ouais, bon, bah, c'était, je dis n'importe quoi, hein, c'était le Covid, c'était un peu compliqué, je vais me refaire, est-ce que vous pouvez pas trop me charger sur les pénalités? Ou bien si t'as un impôt sur le revenu, ah bah oui, mais je croyais que je sais pas quoi, je me suis embrouillée, je suis désolée.
Et non, du coup, on a des codes. En fait, les logiciels marchent par code. Donc non, ça, tu ne peux pas. On peut pas dire, bah tiens, au lieu de 10%, je te mets 8%, par exemple. Ça, on n'a pas le choix. C'est pas nous. Et en plus, ça ferait complètement tomber la procédure. Et du coup, derrière, on est marron, hein, donc c'est pas possible.
Qu'est-ce qu'il faut vraiment pas faire si on veut pas tomber sur toi? Là, tout de suite, là, tous ceux, toutes celles qui sont en train de remplir leur déclat.
Franchement, n'abusez pas, quoi. Mettez au moins des trucs cohérents, quoi. C'est la base. Essaye d'être au moins de bonne foi, quoi. Et si tu te fais choper? Si tu te fais choper, ne monte pas sur tes grands chevaux. Tu dis ouais, c'est vrai, sorry. Tu t'arrêtes là.
Voilà, c'est terminé. Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production est assurée par Frédéric Fortuny sur une musique d'Emma Pixon. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter partout en France. Merci à vous et surtout n'hésitez pas à nous faire des retours, des critiques, à nous envoyer des messages ou à laisser des commentaires sur les réseaux. On répond toujours. À bientôt. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire Thune, vous savez qu'on a besoin de thunes. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez Thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thune Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.